Xavier de Montépin, chapitre 7e, des trois sœurs. Maintenant, écoute, avait dit Jeanne, et cependant elle ne parla pas tout de suite. La tête et le bras gauche appuyés sur l'épaule du comte, dont elle tenait une des mains dans sa main droite, elle semblait se recueillir. Sans doute elle cherchait quelque moyen d'atténuer le coup terrible que ses premières paroles allaient porter à son mari bien-aimé. « Cher Raoul !» commença-t-elle d'une voix faible comme un murmure, mais qui ne tarda pas à s'élever un peu. « Depuis des jours, depuis des semaines, je respecte chez toi des illusions que je voudrais partager. » Je m'efforce de te laisser une espérance que je n'ai plus. » Elle s'interrompit. « Mais je ne comprends pas, » balbutia M. de Gordes. « C'est-à-dire, » reprit la comtesse, « que tu ne veux pas me comprendre. Il est impossible que notre bon docteur, dont tu connais aussi bien que moi la science et le dévouement, se trompe absolument sur mon état. » Il est impossible qu'il ne t'ait point laissé, parfois, entrevoir la vérité tout entière. Seulement, tu refuses de le croire parce que la vérité te fait peur. Tu fermes les yeux à l'évidence parce que l'évidence te désespère. Eh bien, cher Raoul, si douloureuse que soit la réalité, le moment est venu de la regarder en face. Le bonheur que tu nous as donné depuis que nous nous aimons, depuis que je suis ta femme, était trop grand, trop complet, trop infini pour durer toujours. J'aurais eu mon paradis sur la terre. J'ai été, grâce à toi, plus heureuse dans ma courte existence que des milliers de créatures humaines à qui le ciel accorde de longues années de vie. Je serais bien ingrate si je me plaignais de mon sort. Dieu m'a fait une belle part, et ma reconnaissance égale sa bonté à l'heure où il me rappelle à lui. Mon arrêt est prononcé, cher Raoul. Je vais te faire en mourant le seul chagrin qui te sera venu par moi, et ce chagrin, tu m'as promis de me le pardonner. » Monsieur de Gordes sentait son cœur défaillir. Ainsi donc, il ne se trompait pas. Quand il disait à Lazarine quelques jours auparavant, Jeanne, dans sa nature angélique, se sent condamnée peut-être et paraît ne le point savoir. Elle s'efforce de me laisser une suprême espérance. Elle refuse d'ajouter une douleur nouvelle à l'effroyable chagrin qui me mine. Tout cela était vrai. Jeanne voyait la mort venir et se taisait en souriant. De même que l'avait fait avant lui la marquise de la Tour du Roi dans son entretien avec sa sœur, Raoul s'écria en enveloppant Jeanne d'une étreinte passionnée, en baisant les cheveux blonds qui flottaient sur son épaule. « Mais tu te trompes, ma chérie. Dieu est bon, tu ne mourras pas. » La petite comtesse secoua la tête et répliqua « Je sais bien que je vais mourir. Tu tenterais en vain de combattre la certitude qui s'impose à moi. Laisse-moi m'en continuer sans m'interrompre. N'anéantis point mon courage. Tes larmes inondant mes mains retomberont sur mon cœur. Non, ne m'enlève pas le moins peu de force dont j'aurais tant besoin pour aller jusqu'au bout. » Raoul comprit que, s'il prononçait une parole, ses sanglots allaient déborder. Il se tut, et en signe d'adhésion, il se contenta de presser la main de Jeanne. « Je te comprends. Tu réponds oui, » reprit la pauvre enfant. « Merci de toute mon âme. » Après un court silence, elle poursuivit. « Le sacrifice est accepté, mais non sans amertume. Mourir à 18 ans, mourir en plein bonheur, c'est dur. Je me résigne cependant, il le faut bien. Je me résignerai mieux encore quand tu m'auras délivré d'une angoisse que je ne puis chasser moi-même et qui remplit d'amertume mes derniers moments. Je disais l'autre jour à Lazarine, mais que va-t-il devenir, le bien-aimé dont la mort me sépare? Je ne veux pas qu'il souffre trop, mais je ne veux pas non plus qu'il soit trop vite consolé. Je ne veux pas surtout qu'une autre femme, s'emparant de lui tout à coup, lui commande de m'oublier. Monsieur de Gordes fit un mouvement brusque. Une autre femme, répéta-t-il, d'une voix rauque, étranglée, méconnaissable. Mais as-tu donc un si profond mépris pour moi que tu puisses craindre cela? Non, non, tu ne mourras pas, mais si Dieu le prenait, mon cœur te suivrait dans la tombe sans attendre que mon corps te rejoigne. Et tu m'attendrais pas longtemps. Jeanne secoua doucement la tête. Je ne veux pas que tu meures, dit-elle. Raoul, je t'ordonne de vivre. Mais est-ce que je peux obéir? Tu m'as juré, sur ton honneur, de m'accorder la grâce que je te demanderai, quelle qu'elle soit. Mais c'est impossible. Tu as juré. Souviens-toi de ton serment. Tu tiendras ta parole. Tu me donneras ma dernière joie. Mais Jeanne, que veux-tu donc? Balbutia le comte en luttant contre les sanglots qui l'étouffaient. Il fut vaincu, les sanglots éclatèrent. Je suis cruel, cher ami, je le sens bien, reprit la comtesse au bout d'un instant. Mais ce n'est pas ma faute. Élève ton cœur, cher Raoul, élève ton cœur et écoute encore. Peux-tu m'entendre? Parle, chérie, et que Dieu ait pitié de moi. Jeanne poursuivit. Quand je serai parti, le monde te semblera vide, car je sais que tu m'aimes autant qu'on puisse aimer. La solitude est mauvaise, conseillère. L'isolement et le chagrin te tueraient, et je t'ai commandé de vivre. Or, tu ne peux pas vivre seul. Raoul, voici mon vœu suprême. Voici la grâce que j'implore et que tu m'accorderas. Tu l'as promis, tu l'as juré. Un an après ma mort, ni plus tôt ni plus tard, un an après ma mort, remarie-toi. Jamais ! S'écria le comte avec explosion. Jamais, répéta-t-il, jamais. Madame de Gordes, comme si elle n'avait pas entendu, continua. Une femme inconnue, prenant ma place, voulant être uniquement chérie et se figurant que c'est son droit, te commanderait l'oubli. Il te faudrait effacer de ton cœur mon image jusqu'à mon nom. Ce nom que tes lèvres prononçaient avec un accent si tendre quand tu disais « Jeanne, je t'adore ». Je verrai cela, mon Raoul, du haut de ce pays céleste où je monterai bientôt. Mon âme souffrirait horriblement et, morte, je serais jalouse. Rien qu'à cette pensée, je frissonne. Et c'est pour éviter un tel supplice. C'est pour m'éteindre en paix, le calme au cœur, le sourire aux lèvres, que je veux te donner une femme digne de toi. Une femme qui, m'ayant aimé, ne tentera point de chasser ma mémoire. Cette femme, tu la connais. Les affections profondes de sa vie se résument en nous. Tu la chéris comme une sœur. Tu t'accoutumeras bien vite à la chérir comme une épouse. Ensemble, vous penserez à votre pauvre petite Jeanne. Ensemble, vous parlerez d'elle et vous viendrez prier sur sa tombe en y mettant des fleurs. tu l'aimeras bien. Moins que tu ne m'aimais, cependant. Un peu moins, je t'en prie. Tu m'auras aimé plus que tout. On ne pourrait t'aimer deux fois autant que tu m'aimes, n'est-ce pas? Raoul, cher Raoul, moi aussi je t'aimais bien. Comme je t'aimais, mon Dieu. Comme je t'aime et mourir. La voix de Jeanne s'éteignit. Ses larmes, longtemps contenues, jaillirent, ainsi qu'un moment plus tôt avait jailli celle du comte. La crise fut courte. Madame de Gordes trouva dans sa faiblesse assez de force pour sécher ses yeux. Au bout de quelques secondes, elle continua d'une voix presque ferme. « Cette femme en qui j'ai confiance, cette femme à qui je te donne, tu l'as compris déjà, c'est Renée. Promets-moi, cher Raoul, promets-moi d'épouser Renée un an après ma mort. » Le comte voulut répondre, et si l'on s'engageait de nouveau avec une promesse plus positive que la première, du moins rassurer Jeanne à l'aide de paroles ambiguës qu'elle prendrait pour un consentement. Il fut impossible de prononcer un mot, d'articuler un son. Il étouffait, et dans le paroxysme de son agonie morale, il lui semblait sentir vaciller sa raison. « Pourquoi ce silence ? » demanda la comtesse. « Tu n'as pas le droit de refuser, et tu le sais bien. J'ai un serment, Raoul. Réponds-moi. » Monsieur de Gordes se dégagea doucement de l'étreinte qui l'enlaçait. Il replaça sur l'oreiller la tête blonde de Jeanne, et comme elle répétait encore, « Raoul, réponds-moi, réponds-moi donc !» Il se précipita hors de la chambre ainsi qu'un homme frappé de folie soudaine. « Il a juré sur l'honneur, » murmura Madame de Gordes. « Il n'osera point se parjurer quand je serai morte. » Immobile et l'oreille au guet derrière les pans de la tapisserie, Renée avait tout entendu. Un sourire d'orgueilleux triomphe illumina son visage sombre. « Voilà pour mes projets, un secours bien puissant et bien inattendu, » se dit-elle. « J'ai ma sœur dans mon jeu, le succès est certain. À présent, il faut en finir. Dans 8 jours, Raoul sera veuf. » Au moment où s'achevait l'entretien auquel nous avons fait assister nos lecteurs, une calèche s'arrêtait devant le perron du château et Madame de la Tour du Roi descendait de cette calèche. Interrogé par elle, le valet de chambre qui lui ouvrait la porte du vestibule répondit « Oh, rien de nouveau, Madame la Marquise. La situation ne s'est modifiée d'aucune manière. « Monsieur le comte est dans l'appartement de madame. » Ce domestique se trompait, car en traversant un des salons du rez-de-chaussée, Lazarine, stupéfaite, vit Raoul assis ou plutôt accroupi sur une chauffeuse, la tête entre ses mains et pleurant. Et elle alla vivement à lui. « Mon frère, lui s'écria-t-elle, mais qu'y a-t-il ? « Votre attitude m'épouvante. Un malheur est-il arrivé ?» Le comte écarta ses mains frissonnantes, montra son visage livide et ses paupières rougies. « Oh non, ma sœur, balbutia-t-il d'une voix éteinte. « Non, oh, Jeanne n'est pas morte, mais elle sait qu'elle va mourir. »« Elle vous l'a dit ?»« Oui, elle me l'a dit. »« Mais comment, à quel propos ?» reprit la marquise. « Que s'est-il passé entre vous ? Ne me cachez rien, je vous en supplie. » Monsieur de Gordes ne résista pas à la prière de Lazarine. Il lui raconta ce que nous savons. La marquise, saisie d'une émotion profonde, écouta ce récit navrant. « Cela devait finir ainsi, » murmura-t-elle ensuite. L'idée fixe qui la dominait et qu'elle ne m'avait point déguisée conduisait fatalement notre chère Jeanne à la résolution qu'elle a prise. Pauvre enfant, pauvre cœur brisé, quelle souffrance et que de courage! Alors avez-vous promis d'obéir? Monsieur de Gordes secoua la tête. Il faut promettre, continua Lazarine. Il faut donner à notre chère mourante cette consolation suprême. Mais à quoi bon? Répliqua le comte. La promesse que Jeanne demande, je ne pourrais pas la tenir. Et pourquoi? Renée m'inspire une affection profonde, mais il me serait impossible de voir en elle autre chose qu'une sœur. Mais Jeanne le sait bien, et sa sécurité vient de là, s'écria Lazarine. Ce n'est pas votre amour qu'elle veut pour Renée, c'est votre nom, rien que votre nom, afin qu'une autre ne prenne part en prenant aussi votre cœur. Mon frère, soyez généreux. Laissez-moi dire à Jeanne que vous consentez. Monsieur de Gordes hésita d'abord, puis, baissant la tête, répondit « Allez, ma sœur, puisqu'il le faut, et que votre volonté soit faite !»